Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir sur la route inconnue, première émission d'une série de 20 qui vous permettront deux fois par mois de découvrir un petit pan, si j'ose dire, de l'actualité éditoriale en matière de poésie francophone. Aujourd'hui, on va faire un petit retour en arrière. Au mois de juin dernier s'est déroulé le traditionnel marché de la poésie de la place Saint-Sulpice à Paris. J'y ai laissé traîner mon micro, l'occasion de découvrir l'actualité éditoriale des éditions des Lisières, qui nous est présentée par Maud Leroy, l'éditrice. Et puis, par la suite, vous pourrez entendre des extraits de deux livres phares des éditions des Lisières, Un homme avec une mouche dans la bouche d'Ali Tareb et Seule elle chante d'Aya Mansour, qui vous seront lus à voix haute par notre ami Cédric Merlan. En seconde partie d'émission, vous retrouverez deux chroniqueurs aujourd'hui, Georges Catalo et Jacques Morin. Pour finir, eh bien, je vous offrirai un petit cadeau, surprise, je ne vous en dis pas plus. C'est un de mes coups de cœur de ces 6 derniers mois. En attendant, allons vite, place Saint-Sulpice à Paris, retrouver Maud Leroy des éditions des Lisières. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, Maud, pour évoquer donc l'actualité des éditions des Lisières. On va peut-être rappeler brièvement, je vous fais le coup à chaque fois, mais c'est pas grave, l'histoire de... C'est jamais les mêmes, ce sont toujours des... On renouvelle notre auditoire. Donc l'histoire vite fait de, peut-être des éditions des Lisières, pourquoi vous êtes embarqué dans cette aventure éditoriale, qui est vraiment une aventure parce que les bouquins sont superbes, on sent que c'est une édition de qualité, ça doit être coûteux à produire, c'est donc que vous y mettez beaucoup de vous.
Oui, alors oui, effectivement, merci Christophe. C'est une maison qui a été créée en 2016 dans la Drôme. Qui, dès le début, voulait donner à lire des voix de Lisière. Donc, aussi, c'est le lieu de rencontre, la Lisière. Donc, c'était voilà, l'idée de faire rencontrer des voix assez différentes dans un même lieu, donc dans cette maison. Du coup, il y a pas mal d'éditions bilingues dans plusieurs langues. Voilà ce que je peux dire avec... Voilà.
Avec une belle ouverture, donc effectivement, auteur français, auteur étranger. Peut-être une prédilection pour tout ce qui est en rapport avec le thème d'habiter la terre, est-ce que je me trompe ou...
Oui, il y a cette idée de... oui, d'habiter. Dans la maison, c'est... y a la question de l'habitat qui est là. Et habiter, donc, en prenant soin. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire les livres un peu de façon artisanale, notamment les couvertures en impression typographique avec linogravure, en choisissant des beaux papiers, etc. Donc voilà, faire un bel objet.
Et en donnant la voix souvent à des sans-voix, je pense notamment à ce poète Ainu que vous avez publié, je ne me souviens plus de son nom, mais un poète japonais de l'ethnie Ainu, c'est assez improbable et c'est extraordinaire.
Oui, Iboshi Okuto, il y avait l'idée de donner la voix à des voix plus discrètes comme des voix de femmes, des voix rurales aussi, et puis des voix de colonisées qui sont peut-être moins mises en avant. Et après, le hasard des rencontres a fait que voilà, il y a eu cette occasion qui s'est pas mal développée dans le catalogue, et notamment Iboshi Okuto, donc ce poète Ainu que m'a fait découvrir un ami japonais.
Et c'est Igetsu aussi, un clochard poète.
Et c'est Igetsu, c'est une belle histoire aussi. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais voilà, c'est une très belle rencontre avec ce poète et avec Patrick Blanche, qui est un ami qui adapte.
Il y a eu un moment aussi extraordinaire, c'est cette rencontre avec deux poètes irakiens, un homme et une femme. Je pense que c'est parmi les livres qui comptent vraiment dans votre catalogue. Ils comptent tous, bien évidemment, mais des livres qui ont dû rencontrer leur public.
Oui. Et du coup, oui, en plus, ça a été soutenu par leur venue. Donc, Ali Tareb qui est venu un mois en France et puis Aya Mansour qui est venu 15 jours. C'était magnifique. Et puis, c'est grâce à Soi de la Bise qui m'a proposé ces textes en traduction. Voilà, qui est aussi une belle rencontre que j'ai fait assez rapidement au début de la maison d'édition. Voilà.
Quel rôle vous assignez la poésie, finalement? Qu'est-ce qui vous fait...
Quel rôle sauver le monde, hein. En toute humilité. Non, je rigole. Enfin, voilà,
ça me rappelle quelqu'un.
Oui, on rigole souvent autour de ça, mais forcément, je pense que tous les gens qui sont dans la poésie sentent qu'il y a quelque chose d'assez fort dans cette langue-là. Peut-être que c'est une langue vraiment intime et qu'il y a une grande part de liberté qui permet de, voilà, peut-être de sortir de certains carcans. Et aussi, je pense que c'est une langue qui permet la rencontre, une sorte de diversité aussi. Voilà ce que je vois. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est, vu que ça fait vraiment beaucoup part de ma vie, je trouve que c'est beau, quoi.
Et l'écriture ?
L'écriture, non. Je fais les présentations de livres, tout ça, mais les dossiers de demande d'aide.
ça, c'est important. Comment vous avez découvert la poésie, alors, du coup ?
Comment j'ai découvert ? Oula, ça devait être sûrement à l'école primaire, déjà. Et puis après, pas mal par les poètes de la Résistance. Parce que j'ai pas mal travaillé à partir du collège en faisant le concours de la Résistance. Et donc, il y a eu pas mal de... Voilà, j'ai pas mal découvert la poésie à ce moment-là. Donc, il y a toujours un côté politique dans mon approche aussi de la poésie. Peut-être quelque chose de l'ordre de la survie aussi. Voilà. Et puis après, petit à petit, je suis rentrée dans le monde de la poésie en découvrant aussi des petits éditeurs, notamment l'atelier du Hanneton, qui m'a fait découvrir des poètes contemporains. Et je m'enfonce de plus en plus et je continue à en découvrir tous les jours.
Et du coup, l'édition, ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Finalement, c'est devenu une évidence à partir du moment où vous intéressiez à la poésie de faire entendre des voix nouvelles ou...
Non, ça a été un long chemin. Ouais, parce que j'ai commencé par de la micro-édition pendant 6 ans, où justement, j'ai avec une amie des livres en illustration et pas mal poésie. Notamment avec la rencontre de Patrick Blanche, on a publié pas mal de ses haïkus. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis un peu rentrée dans l'édition, aussi dans l'édition de poésie. Et je peux avouer aussi que ouais, le premier livre que j'ai publié, c'est Le slip de mon père. C'est un texte que j'ai écrit, qui a été illustré. Donc voilà, je...
Qu'est-ce que je voulais dire ? Peut-être nous parler de l'actualité. Je crois qu'il y a un livre qui est sorti au mois d'avril. Vous pouvez nous le présenter ?
Oui, donc il y a Sauve de Laetitia Godefroy-Colombo, qui a aussi un long compagnonnage depuis Le Bon Pied, donc la maison de micro-édition, et qui est donc une artiste qui écrit aussi des petits textes poétiques. Et donc là, Sauve, c'est inspiré par la rivière Sauve, qui est une rivière qui coule en bas de chez elle, donc dans la Drôme. Et c'est un travail texte-image, donc linogravure et poésie. Voilà, un bel objet. Et puis,
je crois qu'il y a des publications à venir.
Donc, c'est une petite année pour le premier semestre. Et il y a voilà, normalement 2 ou 3 titres qui sortent au deuxième semestre.
Pour dire 2 mots.
Oui, donc il y a le livre de Nathalie Diaz, qui est une traduction par Béatrice Machet. Nathalie Diaz, elle a eu le... Ah ben, elle est là.
Venez. Je vais vous poser 2 ou 3 questions.
Nathalie Diaz, qui a eu le Pulitzer de poésie en 2021 pour un livre qui s'appelle Postcolonial Love Poem, qui sortira chez Globe cet automne. Et donc, Béatrice a traduit son premier ouvrage. Elle a publié 2 livres de poésie qui s'appellent When My Brother Was an Aztec, quand mon frère était un Aztec, qui est un livre magnifique. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. En 3 parties. Je sais pas si tu veux.
Alors, oui, dites-nous. Alors, parlez-nous de Béatrice Machet, parlez-nous de ce bouquin peut-être et de l'auteur.
L'autrice, est une indienne du sud-ouest des États-Unis qui a grandi sur sa réserve et qui maîtrise sa langue tribale, maîtrise l'espagnol. Et l'anglais, donc elle a 3 registres et 3, je dirais, univers de langue, donc 3 façons de regarder aussi. Et elle se prive pas d'ailleurs d'alterner les 3 langues dans ses poèmes. C'est un livre coup de poing qu'elle met sur la table, coup de poing nous qu'on reçoit dans l'estomac. Et donc, ça me paraît important. Alors, moi, ce n'est pas le premier ouvrage d'auteurs indiens que je traduis.
Et c'est une traduction de l'espagnol ?
Une traduction de l'anglais. De l'anglais. Ce qui est... ça, c'est en aparté, mais c'est certainement le livre le plus difficile que j'ai eu à traduire jusqu'à présent. Parce qu'il est truffé de références... Et elle mêle un langage châtié à un langage idiomatique, à un langage crypté. Rendre ça, déjà une traduction, c'est... art gothique, voilà. Ouais. Donc oui, c'est un grand livre. Il y a une construction très solide, très réfléchie. Et on est donc emmené, embarqué du début jusqu'à la fin. Alors il y a le monde de la réserve, évidemment. Il y a le racisme ordinaire. Il y a la révolte contre l'injustice et les mauvais traitements. Et puis il y a le personnage central de ce frère qui représente l'Indien moderne contemporain qui a été broyé par la colonisation et qui s'en trouve plus ou moins désespéré, qui a recours donc à la drogue. Mais ce recours à la drogue, pour le frère, c'est une manière de se rapprocher d'un univers, peut-être pas divin, mais en tout cas d'un monde des esprits, dans lequel il déambule comme un fantôme, c'est une manière pour lui d'échapper quand même, tout en restant dans l'univers indien. Donc il y a pas mal d'images mais saisissantes, quoi. C'est absolument incroyable. Il y a un humour dévastateur. C'est vraiment formidable, formidable. Donc elle mérite.
Deuxième partie qui ouvre sur l'amour, oui. La question queer aussi.
Oui, oui, oui. C'est une auteure qui est lesbienne. Donc elle n'en fait pas étalage et elle ne revendique rien, mais elle a traversé des expériences et à travers l'écriture elle nous embarque un peu aussi là sans... ce qui est intéressant, je crois, dans à la fois cet univers donc de l'homosexualité, mais c'est aussi la rencontre toujours de la différence, quoi. Parce qu'elle est indienne. Et les partenaires qu'elle rencontre ne sont pas indiens, ne sont pas indiennes. Et là aussi, il y a quelque chose qui est intriguant, je trouve, au niveau de la rencontre de l'autre, qui est la même, mais qui ne sera jamais la même. Alors bon, ça, on peut le dire de toute altérité. Mais malgré tout, moi, j'ai ressenti ça un petit peu, Bon, quoi dire encore?
Comment vous êtes rencontrées, toutes les deux?
Au festival Voix Vive à 7.
Oui. Et donc, il y avait ce projet qui était déjà en route, non? Vous lui avez confié le projet, vous...
Non, c'est Béatrice qui l'a proposé avant qu'on sache que Nathalie Diaz avait le prix Pulitzer, du coup.
C'est un super coup. Elle est douée, hein, vraiment.
Ah ben... non, mais enfin là... Ben, disons que moi, ça fait quand même... une vingtaine d'années que je suis des auteurs contemporains indiens d'Amérique du Nord et que j'ai vu donc émerger de jeunes auteurs parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup viennent de l'Institut des Arts Amérindiens de Santa Fe. Et donc moi, je vais toujours un petit peu fouiller là pour voir les nouvelles pépites. Et donc Nathalie faisait partie de celle-là il y a déjà 5-6 ans.
Ce sont de quelle tribu?
Nathalie Diaz, les Mojaves, ouais. Ouais.
Les Indiens du désert.
Les Indiens du désert, exactement, ouais. Ah ouais. Californie, Texas, à cheval un peu, ouais. Voilà.
Donc le travail de traduction était déjà fait quand vous l'avez proposé?
J'avais fait un brouillon de traduction. Parce qu'un travail juste un brouillon, mais bon, ça donne déjà quand même une idée de l'ambiance.
Est-ce qu'on peut envisager, pourquoi pas, la venue de l'auteur, non?
Elle vient au Festival América au mois d'octobre, septembre, fin septembre.
Et vous y serez?
J'espère. J'espère et j'espère que le livre sera prêt à ce moment-là. Voilà.
Oui, c'est... Ouais. Ah, si le livre est prêt, on y sera, ça c'est sûr. Après,
il y a d'autres projets,
hein, ouais. Oh oui, bien ça... Enfin, ah, pour ce qui me concerne, en tout cas, je ne laisserai jamais tomber cet aspect de la traduction, même si cette expérience-là, elle est éprouvante. Sur ce livre-là en particulier, c'est quand même assez éprouvant. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est une épreuve vécue de bon gré et pour la bonne cause, donc il n'y a pas de problème.
Il y a d'autres livres, je crois, c'est ça ?
Oui, du coup, il y a deux autres livres qui sortiront cet automne. Donc, il y aura « Je serai jamais morte » de Fabien Drouet. Donc, c'est un livre, en fait, qui sur sa vie avec sa grand-mère. Voilà, qui mêle à la fois de l'humour, mais à la fois aussi un pan plus profond, on va dire. Enfin, pas que l'humour soit pas profond, mais voilà, de réflexion sur la vie de deux personnages qui sont très, vraiment très différents. Et puis, il y a Madame Flaina de Karima Alcaraz, qui est une dramaturge qui vit à Saint-Denis, là, à côté de Paris. Et donc c'est un très beau, en fait c'est un monologue de théâtre plutôt pour les enfants qui est inspiré par la première aviatrice du monde arabe qui s'appelait Touria Chaoui, qui a été aviatrice à 15 ans et qui a été assassinée à 19 ans, donc qui a eu une courte vie mais qui a énormément agi dans cette vie, notamment pour les femmes au Maroc qui étaient à l'époque sous protectorat. Donc c'est très intéressant, voilà, sur aussi la question, ça est traversé par la question du colonialisme aussi, la question de la place des femmes, et c'est un très beau texte, très poétique, et qui sera illustré par Evelyne Marie, donc qui est une graveuse qui est en Ardèche, voilà.
Merci beaucoup. On va peut-être redonner un mail ou le site
Oui, c'est www.editiondelisière.com.
Merci beaucoup.
Merci Christophe.
Eh bien, c'est vrai que c'est toujours très agréable de retrouver Maud Leroy. Nous aurons sans doute l'occasion de l'interviewer peut-être dans le courant de cette année. En attendant, je souhaiterais vous faire redécouvrir deux ouvrages phares qui sont parus aux Lisières. Deux ouvrages d'origine irakienne, ceux d'Ali Tareb, Un homme avec une mouche dans la bouche, et d'Aya Mansour, Seul. Elle chante, deux ouvrages douloureux qui nous replongent dans l'Irak de l'époque de Daesh et de la guerre contre Daesh. Ce sont des ouvrages donc qui parlent beaucoup de cette guerre terrifiante, de la terreur imposée par Daesh sur les populations irakiennes. La parution avait été suivie d'une tournée d'ailleurs en France organisée par Maud Leroy, qui avait permis de faire connaître à la fois les auteurs et ces deux très beaux livres qui vont dès à présent nous être proposés à voix haute par notre ami Cédric Merlan, poète et lecteur.
Tout d'abord, des extraits du recueil « Seule, elle chante » d'Aya Mansour. Conseil. Pour repêcher les enfants de la mère lessiveuse, les anges devraient tendre leurs ailes comme une main maternelle, de craindre qu'au moment où la mort les étend sur le fil de la terre, ils ne s'enrhument et contaminent le paradis. Dans les rues de notre ville, les chemises marchent seules, à la recherche de leur propriétaire, pendu, nu, dans l'armoire du cimetière. Ceux qui présentent les restes de leur corps en offrande à la boucherie humaine, ceux-là attendent la naissance d'un squelette pour y verser l'âme entravée de leurs tourments. Pardonne-lui, mon Dieu, cet homme n'a rien fait d'autre qu'étaler ses membres sur le trottoir de la mort. Puis il a appelé les blessés, tous les blessés, à acheter ce qui leur manquait à un prix dérisoire. Et nous les croyons sans pitié pourtant. Chaque fois qu'ils viennent nous voler une âme, ils se coupent les oreilles et les cachent avec soin dans leur poche arrière. Quand il a été enterré, avec son cri refoulé, un gémissement vert a poussé sur la terre de la tombe. Ces gouttes fuyant du récipient céleste percé sont les larmes d'un nourrisson qui attend l'ascension de sa mère. Visite. Les veines sont des ruelles dans le quartier du front. La balle est un hôte de passage qui décampe. Quand j'ai tiré le rideau de la fenêtre de mes yeux, le quartier était dans l'obscurité. Seuls les hurlements de l'avion provoquaient la terreur sur les lieux. Depuis la découverte d'une déchirure dans l'habit du pays, le couturier le rapièce. Nos soldats servent de colmatage. Le poumon du pays, qui souvent poursuit l'air pour le voler, court désormais de son plein gré vers la mer et tombe entre ses mains comme un mort. Tout ce que les pères lèguent à leurs enfants sur cette terre, c'est leur tombe. De grâce, avant de vous diriger vers le ciel, balayez bien les tombes de vos histoires. Elles ne sont, comme vous le savez, que des logements loués, et les enfants craignent vos conversations sur la mort. Du pas de nos idées paralysées, la foulée emprunte le mouvement, sans trace ni marque, se dirige vers la guerre et abandonne, hélas, des foules d'espoir attendant le retour. Ciel, pourquoi tous ces ragots sur les égorgeurs, simples fermiers? Ils exercent leur métier en cueillant nos têtes sur le terreau de la vie. Ah mon Dieu, nous sommes là de ce camp, là au point qu'il ne reste rien à faire, à part lancer des cailloux avec force vers le haut. Qui sait, la fenêtre du ciel pourrait se briser et nous révéler quelque chose. Buvez la coupe du lac petit à petit, comme un enfant blessé à la bouche, que les soldats en sortent sous la forme de glaçons. Échappés des bouches des portes, des hurlements nous poursuivent. Nous sortons, laissant aux maisons le soin de garder nos larmes et nos ombres. Les cailloux sont des larmes durcies, d'enfants qui ont oublié leurs yeux sur les trottoirs en attendant des lendemains. J'écoute le tonnerre, cri fulgurant d'enfants en fuite. Pour les morts, nous sommes des fantômes qui cherchent au cimetière des ruelles paisibles. Les patries nous font mal, comme une porte qui claque sur un seul doigt. Mon âme est un morceau de viande dans la boucherie du monde. J'entre dans le vase de ma cage thoracique, j'y entre, et la fleur fanée n'est pas cueillie. Un rocher de désespoir pèse sur la poitrine de mes souvenirs, je n'ai d'autre hache pour le détruire que mon regard grandissant près de la vitre. Chaque fois que j'ai dessiné une maison sur les murs de ma vie, le destin est arrivé, masqué, en brandissant avec un large sourire sa gomme. Il coupe les têtes de la solitude dans le vide. Les questions se réveillent et mon cœur continue calmement à traîner l'habit de mon âme et à rire. Les échanges avec nos invités ne suffisent pas pour leur dire combien le cimetière est une jolie ville touristique. Ils ne suffisent pas pour leur dire que la vie elle-même est une tombe. Elle cachait les cadavres dans les chambres de ses doigts, sans s'en apercevoir, elle s'est blessée. Ravie, les morts sont sortis en direction du cimetière. Une tristesse dense et débordante tombera de toute façon dans l'estomac de nos jours creux, comme les restes de la veille. Quand l'eau a fui des fenêtres de nos ports, nous nous dirigeons vers l'éternité de l'Exode. Nous nous sommes figés et redevenus rochers. Fuyant vers la montagne, nous avons emporté nos crânes lanternes que les souvenirs pouvaient éclairer. Et quand les encagoulés nous ont assaillis, ceux-là qui étaient nos voisins, la stupeur m'a paralysé. Je n'ai rien fait d'autre que leur faire face comme porte sans verrou. Les balles, c'étaient leurs mains. Et même notre terre jetée dans le marécage de la galaxie est un ballon souillé sur lequel des algues ont poussé. Et nous aussi. À présent, des extraits du recueil d'Ali Tareb intitulé « Un homme avec une mouche dans la bouche ». Bilan. Nous conservons nos doigts, non pour les choses ordinaires, mais pour compter nos amis qui tombent, les heures d'attente, les dettes, nos rêves évanescents, les années qui nous tractent vers la fin, mais aussi toutes les fois où nous échouons à être des assassins. Météo du jour. Chaque jour, avec son unique bras, ma petite sœur plonge mon linge dans la machine à laver. L'eau qui s'échappe du robinet libère sa solitude. Les vêtements sont pris de vertige, mon sang picote son corps, son sang m'enlace, et tandis que je me faufile vers les racines de la maison, mon visage tombe de la machine, comme une pièce métallique sur le sol de la salle de bain. Photo. De toi, nous gardons beaucoup de photos où tu as l'air mort de rire, sauf la dernière, où nous sommes tous ensemble, une photo de la taille d'une main, je pose ma tête dessus et n'arrive pas à la relever. Voilà que tu apparais, comme qui cache son ombre dans un trou, et se dresse sur sa vie. Me voici assis au sommet de ton corps, le couvrant curieusement de deux jambes de larmes. Sur la maison qui ressemble à une plaie. Cette fois-ci, tu n'auras pas de mal à trouver notre maison. Il suffit de demander. L'homme jeté il y a quelques mois par les membres d'une milice, nu dans la rue, jambes brisées et visage retourné. La femme qui cherche le bras de son fils depuis qu'il l'a perdu dans l'explosion d'une bombe. La fille qui craint de sortir dans la rue depuis des années. Le poète dont on se moque tous les jours quand il longe les rues demande à n'importe quel enfant sur ton chemin. Les enfants nous connaissent bien. Tous les soirs, ils criblent notre porte de pierre et s'enfuient. Cerné dans un cercle de craie. Abandonné sur le trottoir avec un seul bras, cadavre calciné, je m'effrite de toutes parts dès qu'on me touche. Après plusieurs tentatives, ils ont décidé de retirer sous mon corps ma mère, mon père, ma sœur et les enfants que je rêvais d'avoir un à un, en me laissant affronter seul mon cadavre. Quand tu approches des restes d'un humain. Quand tu approches des restes d'un humain, tu suffoques. Tu t'assois près de son vœu le plus cher et un trou collé à toi depuis des jours vous épie. Tu contemples les doigts qui amplifiaient ton enfance et ta bouche tombe plusieurs fois entre tes cuisses. Tu la remets en place. Quand ta langue ne parvient plus à émettre un seul mot, tu retires tes yeux, de l'os du bras nécrosé. Tu descends dans le trou et le monde s'écroule sur toi. Le petit voisin, depuis qu'il a perdu son bras dans une explosion sur le marché de la ville, compte sur les doigts de son unique main les vêtements noirs tendus par sa mère sur la corde à linge, les maisons de la rue, les gamins qui jouent devant chez eux, les fenêtres sans vitres de notre maison. Aujourd'hui, je l'ai trouvé assis sur mon lit. Il m'a dit « Je n'ai pas assez de doigts pour les regrets ». Il a ajouté « Pendant mon sommeil, j'espère que mes frères m'arroseront l'un après l'autre afin que mon bras repousse. Comme je ne peux t'acheter de nouveaux vêtements, je vais tous les jours jusqu'aux boutiques pour femmes. Devant la vitrine, je m'imagine en train de cueillir pour toi les fleurs plantées sur les vêtements. Puis je reviens à la maison, les mains chargées de rêves morts. Pour l'enfant assis dans ses rêves depuis des années, notre voisine achète des jouets, décore la chambre avec des affiches colorées, et quand elle veut le distraire, elle saisit le vent sous ses aisselles et lance ses bras en l'air plusieurs fois. Dans l'ancienne maison, les jours de faim, ma mère nous mettait entre ses jambes comme des poissons morts. Et quand soudain la lumière baissait par peur des insectes, elle filait vers la rue en nous emportant. Elle pêchait pour nous la lune, qui était souvent comme le grand plateau des repas, rangé dans un coin de la petite cuisine. Plusieurs fois avant l'explosion de l'enceinte, Le matin, nous avons trouvé dans le jardin de la maison une enveloppe posée sur les cailloux. Elle contenait un projectile et une feuille blanche, avec une seule phrase griffonnée. Les oiseaux ne se posent pas sur des arbres morts. Seul pendu sur la corde à linge, seul sous le ciel, des épingles en bois, oiseaux sans ailes, dressés sur la corde, regardent ses bras qui pendent et aimeraient les redresser. Elles ne comprennent pas que ton habit est mort depuis longtemps. Soudain, ta bouche tombe sur la table. Tu restes calme sur la chaise. Tu touches ta bouche, appuies dessus, enfonces deux doigts de la main gauche, trace un cercle avec les gouttes d'eau, échappées du verre renversé. Y pique plusieurs fois ta cigarette. À la fin, elle ressemble à un insecte mort. Tu l'entoures de cercles infinis, avec le sang qui coule de ton visage. Le soir, chacun de nous regagne sa chambre, s'assure de la mort des choses, de l'accomplissement de la solitude. Puis nous éteignons les lampes et hurlons comme des loups qui savent que la vie est une faute commune. Les assassins ont des enfants qui ont besoin de se promener, des amantes qui les attendent, des rendez-vous avec leurs amis, des jardins qui requièrent davantage de soins, des rêves ignorant tout de la fatigue des pieds. Ils sont très occupés. C'est pourquoi nous devons mourir facilement. Mourir en évitant de les retarder. Allongé par terre, il venait de lui couper la tête et de le mettre sur le dos. Ils l'ont peut-être fait parce qu'ils croyaient que son corps allait s'envoler, comme une poche en plastique vidée de son sang. Il marche sur sa vie avec deux cannes, et ses enfants lui tournent autour. Ils accrochent leurs yeux à son corps, puis lui demandent d'arrêter sa plaisanterie, qu'ils leur disent où il a caché ses jambes. Ma mère me disait « Tu es mon petit cœur ». Mon père disait à mes sœurs « Vous êtes la pupille de mes yeux ». Me voici depuis des années dans ma mère, j'endure les chocs, j'endure la panique. Peut-être m'arrêterai-je un jour subitement. Et voici mes sœurs dans la tête de mon père, il verse chaque jour quelques gouttes d'eau pour ne pas avoir mal, et pose sur elles des lunettes pour mieux voir sa vie.
Un grand merci à Cédric Merlan pour sa belle lecture du livre d'Ali Tareb, Un homme avec une mouche dans la bouche, et d'Aya Mansour, Seule elle chante, deux ouvrages que vous retrouverez aux éditions des Lisières. Il suffit tout simplement de les commander à votre libraire ou directement aux éditions des Lisières. Je rappelle tout de même que ces ouvrages ont été traduits de l'arabe par Souad Labiz. C'était Movement de Ibrahim Maalouf. Et je vous propose de retrouver notre ami fidèle Jacques Mau, directeur de publication de la revue Décharges. La revue Décharges qui est notre partenaire depuis déjà quelques années. Et vous devez vous en douter, nous en sommes très, très, très fiers.
Revue du mois audio numéro 52. L'intranquille numéro 22. La revue de Françoise Favretto est toujours aussi ouverte. Deux pôles principalement dans ce numéro, une partie consacrée à la poésie étrangère et une thématique à laquelle répond une quinzaine d'auteurs. Mais tout d'abord, un entretien par la rédac-chef avec Julien Mériot, à la fois photographe, auteur et artiste de la radio. Lui parle de pratiques conjointes. La photographie permet des fulgurances, le fantasme, une création immédiate. Il parle aussi dans ses propos complexes de concepts de cinéma immobile et de photographie plasticienne. La première partie est consacrée d'un côté à quatre poètes, Sharon Olds pour les États-Unis qui déclare d'entrée de jeu « Je ne suis pas une intellectuelle et je ne suis pas une penseuse abstraite, c'est la vie ordinaire qui m'intéresse ». À noter que c'est un récent polder Carole Nagar qui l'a traduit avec trois textes très forts. Le néerlandais Mena Wigman. Parfois, on sent presque qu'on vit. On prend un billet pour un vol, entre dans une ville, occupe des chambres et se croit un demi-dieu au clic-clac d'une valise. On ne sait rien de qui vide son cendrier, on ne sait rien de qui arrange ses draps, pèse son passeport, dégarnit sa tête. On vit. États-Unis à nouveau avec Cole Swenson. Paysage de pluie qui pleut dans une rue, les gens se déplacent plus lentement sous la pluie parce qu'ils deviennent soudain anonymes, ce qui leur donne plus de temps. Enfin, l'autrichienne Christine Busta, traduit par Joël Vincent. J'aimerais présenter mes hommages à la mort. Dans ses bras, on se console de toute blessure. Suite un dossier irlandais d'une dizaine de pages préparé par Jeanne Marie. Avec les noms les plus importants de la littérature irlandaise, comme William Butler Yeats, prix Nobel 1923, James Joyce, bien sûr, on commémore en 1922 le centenaire d'Ulysse, Seamus Heaney, prix Nobel 1995, Michael D. Higgins, né à Limerick, tout comme Catherine Finn McCarthy, Derek Mahon, ou Ivan Boland, Jane Clarke, ou Mary O'Malley, côté femme. Le thème du numéro, rectifier le futur. On voit bien les directions possibles. Anticipation, fantastique, horreur, rarement émerveillement. Béatrice Maury conclut son texte ainsi. Il faudrait juste pour cela, peut-être, écouter véritablement ce qui nous entoure et nous désarme. Ou bien Louis Arcade. Pour rectifier le futur et pour qu'il perdure, une seule solution entrevoit la plus difficile, je crois, être fidèle à soi. Le dernier texte de la série, signé Tristan Félix, intitulé Le surhomme dégommé, dégomme justement tous les autres par sa puissance. Futur, futu, fêtu, foutu, à lire vraiment. Autre moment fort du numéro parmi les auteurs, Nathalie Barrier, avec un journal épistolaire assez désopilant, à partir du Circé d'Ulysse, en rapport à nouveau avec Joyce, au départ, Marc-Antoine Graziani et Jacqueline de Clercq, avant les critiques signées François Favretto, Jean Esponde et Benoît Gréant. Ce numéro, 19 euros, abonnement 38 euros, 1 Moulin de la Couronne, 33 220, Saint-Quentin de Caplon. À la prochaine fois.
Vous aurez le plaisir de retrouver Jacques Morin dans 4 semaines pour une nouvelle revue des revues audio. On ne dira jamais assez bien des revues de poésie. À présent, je vous propose de retrouver notre ami Georges Catalot, poète, chroniqueur dans la revue Décharges depuis de longues années, un spécialiste lui aussi des revues de poésie, de l'édition. C'est un bibliophile passionné. Et puis, il a initié pour nous, sur la route inconnue, une nouvelle approche de la lecture d'œuvres poétiques. C'est poète présent, poète absent. Je ne vous en dis pas plus. Voici Georges Catalot.
Bonjour à tout le monde. Ici Georges Catalot pour Poète absent et poète présent, numéro 10. Corse, qui présente un poète disparu et un poète vivant. Alors, il y aura Robert Momeux aujourd'hui et Ivar Tuffel. En ouverture, cette définition du poète. Le poète, c'est l'individualiste irréductible. Pierre Chabert. Robert Momeux, donc 1929, décédé en 2010. S'il ne fallait choisir qu'un seul terme pour qualifier Robert Momeux, ce serait celui de discrétion. Cette rare qualité fut relevée en son temps par des critiques aussi avisés que le furent Jean Rousselot, Robert Sabatier ou Jean Chatard, qui fut marin comme lui. Tout au long de sa vie, Robert Momeux n'eut de cesse de se faire oublier. Grand lecteur, autodidacte, il avait su identifier les excès des poètes de son époque, celle des années 1970, disons, jusqu'en 2000-2010. Dommage. Oui, vraiment dommage que les poèmes de Robert Momeux ne connaissent même pas un succès d'estime. Leur lecture révélerait à quel point ils sont envoûtants grâce à une petite musique au ton indéfinissable, une vague nostalgie qui n'est jamais geignarde, mais vive et vibrante. On y retrouve les échos amortis de Verlaine ou de Jean Follin, même si cette apparente facilité d'expression cache en réalité un patient travail d'écriture et de construction. Les images et les mots semblent ici couler de source, dans une fluidité apaisante. Mais comment dénicher encore quelques rares et précieux exemplaires des livres de Robert Momeux, si ce n'est par l'incontournable Internet, bien sûr, ou par l'entremise des libraires bouquinistes? Ne serait-il pas opportun qu'un éditeur téméraire se lance dans la publication des œuvres complètes du discret Robert Momeux? Cela ne tiendrait que dans un modeste ouvrage d'une centaine de pages, mais quelle page! Voilà, et pour le poète présent, j'ai pensé bien sûr lui associer Yves Artufel, né en 1959. La discrétion maximale relevée chez Robert Momeux pourrait aussi être accordée à Yves Artufel. Irréductible individualiste, tout libertaire, esprit indépendant sont ses principaux traits de caractère, les mêmes que ceux qui l'ont poussé à développer une hyperactivité polymorphe en tant que poète, éditeur, revuiste, mais pas seulement, puisque aussi on le retrouve commerçant libraire, comédien, colporteur et homme de théâtre. Il s'est tellement mis au service des uns, des unes et des autres qu'on en aurait presque oublié qu'il est un poète à la voix très originale. Boulimique lecteur, recevant des dizaines de manuscrits par mois en tant qu'éditeur, il a su identifier la poésie qu'il ne fallait pas écrire en louvoyant entre les récifs des facilités poétiques et les mirages langagiers. Voilà, à travers quelques rares ouvrages, une dizaine à peine en 25 ans d'écriture, il a tracé sa voix et, sans jeu de mots facile, il a su faire entendre sa voix singulière où se croisent des poèmes au ton mélancolique, des aphorismes rugueux et des proses virevoltantes au titre énigmatique. L'autodérision étant le point commun de tous ses écrits, il manie avec précaution ce désenchantement actif qu'aucun obstacle n'arrête. Personnage atypique dans le monde improbable de la petite édition de poésie, il a fait paraître sous son enseigne de gros textes des centaines de livres qui sont autant de petits bijoux illustrés, toujours accompagnés de marque-pages personnalisés. Alors pour se procurer les livres d'Yves Artufel, ils peuvent être commandés chez l'auteur à l'adresse suivante. Alors Fanfourane, 05 380 Châteauroux-les-Alpes, ou bien sur Internet, tout en minuscule, gros.texte au pluriel, @laposte en un seul mot, .net. Voilà. Et pour mieux connaître Hubert Tuffel aussi, on peut s'adresser à Luc Vidal aux éditions du Petit Véhicule afin de commander le numéro 116 de la revue Chien d'An, un numéro qui lui était entièrement consacré. Voilà, je termine cette chronique par une parenthèse définition du poète. Celle-ci est de Michel Baglin. Un poète est celui qui ne rêve pas.
Et bien voilà deux noms à ne pas oublier, Robert Momeux et Yves Artufel. Merci Georges Catalot. On te retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle édition de Poète absent, poète présent. Piano, c'était le bondissant Martial Solal. Pour terminer, je vous avais promis une surprise. Eh bien, je vais tenir ma promesse en vous proposant une lecture de Blanc de Clara Régie, publiée aux éditions Henri, collection Les Écrits du Nord. J'aime beaucoup, beaucoup la poésie de Clara Régie. Et c'est son tout dernier livre. Alors, forcément, je n'imaginais même pas de ne pas vous proposer cette lecture. Eh ben, c'est parti. Blanc. J'écris Blanc. J'irai à la fête foraine, éclater des ballons dans le cri des manèges où je n'ose monter. Les nuages entortillent leurs cheveux. Ni arbre, ni chemin debout, l'asphalte. Je dépasse l'aube avec des inconnus. Mes mains dessinent des courbes pour rester dans la course, ne pas aller trop vite. La radio parle tant. La pluie se mouche sur la vitre tachée, éclabousse, me dépasse de grandes ailes blanches, posées sur des camions immenses. Il y aura une fête. Toi, tu n'aimais pas ça. La route ne bouge plus, seules les ailes progressent. Le monde s'articule, des bras d'hommes surgissent pour tracer le chemin. C'est beau, dans le désordre de l'aube, te voilà revenu, cela faisait longtemps. Je ne pleure plus. Tu dois être fier de moi. J'irai à la fête foraine. Le voyage reprend, c'est un jour ordinaire. Je t'embrasse quand même. Je n'écris pas quand je regarde par la fenêtre, l'ombre du toit en dirait un ours d'Igno Asano. Je regarde sa bouche blanche, toujours étonnée. Les feuilles sont vivantes. Dans le bureau d'en face, les gens ne bougent pas. Chacun sur une chaise ne bouge pas, attendent le soir. La femme thermomètre, tu l'appelais ainsi. Je la regarde pour choisir lainages ou cotonnades, elle, bras nus ou manches longues, parfois peu d'étoffe quand il fait très chaud. J'espionne. Les valises roulantes, les courses vers la gare, les annonces dans les haut-parleurs, le départ des enfants, le retour des enfants, le bruit de la lourde porte d'entrée. Surtout les oiseaux qui boivent dans les gouttières jouent à l'amour sur les toits sans tomber. J'écoute et je te parle, mais tu ne réponds pas. Une mère aux pieds si blancs sur la machine à coudre, mollet galbé, comme muscle de lapin nu pendant, comme muscle de lapin nu pendus au poteau de torture, n'en voulait pas deux dans l'assiette. Ma mère, sur la machine à coudre, les robes qu'elle façonnait, portait chaque dimanche la honte collée à mon corps de femme. L'infernale machine des jours, des nuits, je l'entends encore. Tu reviens toujours quand je ne t'appelle pas, mais tu peux rester. Maintenant, ça va. 8 ans. Pourquoi toujours cet âge? Sans doute parce que j'aimais rire déjà. Fin août, début septembre. Le catalogue de la redoute. Pas de robe de princesse, pas de chaussures de demoiselle, pas de ruban, pas de bricole, pas de truc de gamine. Quand la maison dort, je cours aux pages des blanches boursouflures, les soutiens-gorge gonflés comme sacs de dragées, posés sur des bustes pleins. Sont-elles jolies, ces femmes sans tête? Les slips kangourous n'ont pas de tête non plus. J'ai su les assembler, ces beaux corps des deux sexes, sur les cahiers de brouillon des années précédentes. Personne ne s'inquiétait. J'attends toujours ta lettre. Blanc, le carrelage éclaboussé de ton chagrin. Tu portes tes mains de vieille femme au secret de ta nudité. L'autre femme, jeune et forte, exécute la tâche. Ne dis rien. Le jet de la douche blesse le pauvre honneur qui te restait. Sur le cahier du jour, Madame X entièrement lavée. Toi, Madame X parfumée, c'est maintenant que tu te sens sale, les yeux tendus vers la pendule, pour effacer ce vilain morceau de vie. Je me souviens de ce regard, même si je crois que les aiguilles s'étaient effacées depuis longtemps. Voilà, c'était un extrait de Blanc de Clara Régie, publié aux éditions Henri Collection Les Écrits du Nord. Je vous lirai la suite dans les semaines à venir. C'est un très très beau livre. J'adore l'écriture de Clara Régie. Je lui fais la bise, tiens. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Vous pourrez réécouter La Route Inconnue sur www.radiorentiel.fr en podcast. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine édition.